La capsule.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Le coup de fil à un ami.
Allô ?
Au signal, veuillez dicter votre message.
J'ai entendu dire qu'on pouvait dépister le diabète en se servant des satellites. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus à ce sujet ?
Au CNES, celui qui sait, c'est Anthony Auguel, chef du service Application et Valorisation. Allô, Antonio ?
Oui ?
En un mot, peux-tu me dire ce qu'est le projet Diapsat ?
Alors, le projet Diapsat est un projet de dépistage du diabète et de ses complications. Le diabète est une des maladies les plus répandues en France, puisque près de 6 millions d'individus sont touchés par ce fléau. Ce dépistage va se faire grâce à Diapsat au plus près des patients. Et on peut considérer que c'est une forme d'hospitalisation à domicile que permet la mobilité du personnel et des instruments et les transmissions des données recueillies vers les centres hospitaliers via des canaux satellites spécifiques.
Quels sont les principaux outils de ce système de dépistage ?
La première partie, elle consiste à avoir équipé un camion d'un certain nombre d'outils médicaux, un appareil automatique qui permet d'analyser le fond d'œil. Pourquoi le fond d'œil ? Parce que la cécité est la complication majeure du diabète. Un deuxième appareil qui nécessite l'étude de la plante des pieds, parce qu'encore aujourd'hui, en 2010, il y a environ 10 à 15% des diabétiques qui sont amputés d'un ou plusieurs orteils. Ensuite, il y a tout ce qui est vasculaire. Il y a des petits appareils qui permettent d'étudier les vaisseaux et qui permettent enfin d'étudier la fonction rénale atteinte par le diabète qui dure depuis plusieurs années. Le deuxième outil n'est pas dans le camion. C'est une approche qui consiste à étudier le pied du diabétique, mais à domicile. C'est tout simplement un téléphone portable ou un PDA qui est relié par un système de télécommunication, soit fibre optique, soit ADSL, soit via satellite, entre l'infirmière qui se trouve au domicile du patient et le médecin traitant pour éventuellement des modifications de traitement ou des compléments de soins que doit faire l'infirmière, et ceci sans bien entendu faire déplacer ni le médecin dans un sens, ni le patient dans l'autre.
Et Diapsat comprend aussi un volet de prévention et d'éducation thérapeutique.
Il faut apprendre au diabétique qu'il est diabétique. Il faut lui réapprendre une fois par mois, une fois par semaine pour certains, une fois par trimestre pour d'autres, comment il faut qu'il se pique, comment il faut qu'il mange, quel type d'exercice physique il doit faire. Enfin, toute l'hygiène à la fois alimentaire, de vie, physique, mentale, que doit avoir un diabétique pour pouvoir diminuer par deux ou par trois, voire les doses d'insuline qu'il s'injecte.
Alors, dans le cas du diabète, quel est l'intérêt d'un dispositif mobile ?
Le premier niveau, c'est en termes de consultation. Aujourd'hui, que l'on soit à Paris, que l'on soit au fin fond de l'Ariège ou que l'on soit dans la Drôme, quand on demande un rendez-vous pour avoir une consultation d'ophtalmologie, eh bien, il faut attendre entre 3 et 6 mois. Un diabétique ne peut pas attendre entre 3 et 6 mois. Donc l'idée, pour certains examens, que ce soit les examens qui aillent vers le patient plutôt que le patient vers les examens, est une idée qui est fortement soutenue depuis pas mal d'années. Deuxièmement, force est de constater que dans les zones rurales, et pas uniquement dans les zones rurales, parce que dans la périphérie de Paris, dans la banlieue parisienne, eh bien il y a une paupérisation médicale et paramédicale. Non seulement il manque de médecins, mais il manque de plus en plus d'infirmières. Cela va aller en s'aggravant au moins pendant les 5 à 10 prochaines années. Et puis, avec un même outil, pouvoir faire du vasculaire, de l'étude rénale, de l'étude du fond d'œil, de l'étude neurophysiologique avec tout ce qui est pression des pieds et posture, eh bien ça évite aux patients d'aller voir en fait 4 spécialistes différents.
Pour bien comprendre dans quel contexte il prend pleinement son utilité, est-ce qu'on sait déjà où ce dispositif sera proposé en dehors de la région Midi-Pyrénées où il est actuellement testé ?
Ce qui est certain, c'est qu'il y a une demande extérieure à Midi-Pyrénées qui est de plus en plus croissante. La région Bordeaux-Aquitaine est intéressée, la région du Centre est intéressée, la région d'Ardennes est intéressée, et puis il y a des pays étrangers qui connaissent ce programme, puisqu'on en parle depuis un certain nombre d'années, où le taux de diabète est extrêmement important, qui sont intéressés également. On débute des négociations via l'Association française des diabétiques avec l'Ouzbékistan. où la première pathologie est le diabète. L'Inde est intéressée aussi.
Comment est né le projet Diapsat ?
Ce projet est né du fait que les maladies chroniques représentent à peu près 70% des dépenses de santé publique en France, parmi lesquelles la première, c'est le diabète. Ce projet est né à la suite de discussions qu'on a eues avec le service de diabétologie des hôpitaux de Toulouse, avec l'ancien patron des laboratoires Hutch, qui avait lancé les premières insulines il y a près de 40 ans en France, et par des représentants du ministère de la Santé. Mais il a fallu convaincre, il a fallu faire des études de faisabilité, et tout ceci a pris quasiment comme tout programme spatial. Il a fallu une dizaine d'années.
Pourquoi le CNES est-il impliqué dans un tel projet ?
Le CNES, depuis au moins 2003-2004, a souhaité s'intéresser d'une manière beaucoup plus importante à ce qu'on appelle des applications aval, au sens large du terme. Une application aval est une application qui aboutit à un service sociétal pour résoudre des problèmes sociétaux qui relèvent de la santé, de l'agriculture, de la sécurité. Et alors bon, pourquoi la santé est devenue une des priorités ? Parce que c'est un problème sociétal. Pourquoi le CNES s'y est intéressé ? Parce que le CNES s'est toujours intéressé aux sciences de la vie et à la médecine. Parce que on est convaincu qu'un de nos rôles et de jouer l'effet de levier dans la mise en place de nouveaux services. Donc on a commencé par la médecine, parce que les mauvaises langues disent que je suis médecin.
Merci, Antonio Gouel.
Ah, merci, c'est beaucoup plus clair comme ça.
Dans tous les sens.
Trace. C'est un paradoxe de taille. Alors qu'ils évoluent dans le vide absolu de l'espace, les satellites laissent pourtant une trace de leur passage. Comment est-ce possible ? Serait-ce un sillage, comme celui des bateaux ? Une empreinte, comme celle de la biche accourue au point d'eau ? Ni l'une, ni l'autre. La trace que laisse un satellite est une ligne imaginaire. Appelée trace au sol, elle est formée de tous les points de la surface terrestre au-dessus desquels le satellite est passé, passe ou passera. Comme beaucoup d'autres lignes imaginaires, la trace au sol est d'une grande utilité. C'est grâce à elle que les contrôleurs de mission préparent les activités des satellites. En cas de catastrophe naturelle, ont-ils une observation urgente et imprévue à effectuer ? En prolongeant vers le futur la trace du satellite, ils savent à quel moment l'engin spatial sera en visibilité d'une antenne, à même de lui transmettre l'information. Et lorsque la fin de la mission approche, c'est encore la trace au sol qui permet de déterminer à quel moment l'engin spatial doit entamer son grand plongeon dans l'atmosphère pour finir sa course à l'endroit voulu. Finalement, c'est peut-être cela le vrai paradoxe de la trace au sol, être une ligne imaginaire qui, in fine, permettent aux satellites de disparaître sans laisser de traces sur l'environnement.
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
M'as-tu vu ? En juillet 1955, le président Eisenhower proposa à ses homologues français, britanniques et soviétiques d'ouvrir leurs espaces aériens respectifs afin de pouvoir contrôler l'application d'un accord de désarmement alors en discussion. Prévisible, la réponse de Nikita Khrouchtchev, le premier secrétaire du parti communiste de l'URSS, ne se fit pas attendre. Niet, niet, niet. Tout ce que vous cherchez à faire est à regarder dans nos chambres à coucher. Personne n'en doutait un seul instant. Les temps ont changé. À la suite de Spoutnik, une armada de satellites espions, aux regards de plus en plus perçants, aux oreilles de plus en plus fines, ont été lancés au-dessus de nos têtes. S'ils ne s'intéressent guère aux chambres à coucher de l'ennemi, ils laissent cette tâche aux satellites envoyés quelques années après eux par des institutions civiles et surtout par des sociétés privées. Celles-ci mettent désormais à la disposition du public le plus large, moyennant finances, des images qui, il y a une quinzaine d'années encore, étaient estampillées « secret défense ». Qui, grâce à Internet, n'y a-t-il pas recherché une vue de son quartier, de sa maison, de ses lieux familiers ? Qui, ce faisant, ne s'est-il pas demandé s'il ne jouait pas à l'apprenti sorcier en brisant ainsi les tabous et les interdictions jusqu'alors admis en matière de vie privée. Les juristes, réunis il y a quelques semaines à Vienne autour de ces questions, ont reconnu l'érosion à laquelle est soumise notre intimité du fait des progrès des technologies. Ils ont rappelé la nécessité de veiller à l'application des droits accordés aux personnes et des modes de régulation qui accompagnent dès à présent le développement des nouveaux marchés de l'image, de l'information et du renseignement. Mais ils ont aussi souligné la difficulté à définir les limites entre le privé et le public. Cette zone de pénombre, a dit l'un d'entre eux, dont nous savons bien qu'elle est à la fois la plus sensible et la plus intéressante. Celles et ceux qui sont la cible des paparazzi, nos étoiles terrestres, en font un usage permanent, inquiets dès qu'ils disparaissent de nos magazines et de nos écrans, mais prêts à intenter des procès aux photographes trop indiscrets. Nous-mêmes, ne sommes-nous pas traversés par une inquiétude semblable ? Nous prétendons défendre notre vie privée, mais simultanément désirons, revendiquons pouvoir utiliser des technologies qui permettent à un tiers de nous localiser. M'as-tu vu ? Ne cessons-nous de dire à ceux qui nous entourent, à la société à laquelle nous appartenons, via nos téléphones et nos cartes bancaires, nos GPS et notre usage d'images satellitaires. Dès alors, avant de nous emporter contre les menaces bien réelles sur nos vies privées, ne devrions-nous pas nous interroger sur nos exigences en matière de sécurité toujours plus grandes ? Ne devrions-nous pas aussi méditer le mot de Thomas Jefferson : ceux qui acceptent de perdre un peu de leur liberté pour gagner un peu de sécurité, ne mérite ni l'une ni l'autre. Ne devrions-nous pas enfin nous demander si derrière ces craintes et ces revendications ne se dissimule pas une profonde crise de confiance ? Nous avons tous besoin du regard des uns sur les autres, mais pas n'importe quel regard et pas à n'importe quel prix.
Allons-y.
La capsule a été imaginée par Daniel Fievé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre ?
C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi. Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et ben qui c'est qui va aller sur le terrain ?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est nous.
Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là en bas.
Oui. Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Il serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre ? C'est qui a les clés ?
Allez, à la prochaine.